Bonjour frères et sœurs, nous voici aujourd'hui vendredi 10 avril 2020, à nouveau ensemble pour partager un temps d'étude de la parole de Dieu sur le thème du combat spirituel. Et aujourd'hui, le sujet de notre étude, c'est le bouclier de la foi. Mais avant de faire la lecture d'Éphésiens 6 à partir du verset 10, je vous invite à prendre un instant et placer ces moments entre les mains du Seigneur, qui puisse diriger nos cœurs. Je vous invite donc à prier ensemble. Seigneur et Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur, à tes pieds. Et nous nous attendons, Seigneur, à entendre, Seigneur, ta parole retentir dans nos cœurs pour nous enseigner, nous fortifier, nous construire et bâtir notre vie, Seigneur, à l'image de ce que toi tu désires. À l'image, Seigneur, de Jésus-Christ, à l'image, Seigneur, de la sainteté, de la pureté et au même temps, Seigneur, d'une foi vivante. Seigneur, merci encore de communiquer par ta parole. Seigneur, la sagesse et le discernement dont nous avons besoin. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, à savoir saisir, Seigneur, la vérité et nous approprier de cette parole, Seigneur, pour la vivre pleinement. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour le don précieux de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, te dire à toi la gloire, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu en Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Amen. Dès le démarrage de ce thème d'étude, nous avons défini, à l'aide de la parole de Dieu, que l'armure du chrétien est formée de deux catégories d'objets, les armes défensives, donc pour se protéger, la ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque, et les armes offensives. Encore une fois, on retrouve le bouclier et l'épée. C'est le seul élément qu'on retrouve dans les deux parties, défensive et offensive. Mais arrêtons-nous aujourd'hui à bien vouloir poser nos cœurs sur le verset 16 qui dit « par-dessus tout cela, le bouclier de la foi ». Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier était un objet qui faisait à peu près 80 cm sur 1,50 m et qui était conçu pour protéger le corps du soldat. La foi à laquelle fait appel ici Paul n'est pas l'ensemble de la doctrine chrétienne, mais la confiance fondamentale en Dieu. La foi qui ne doute jamais est la meilleure de toutes les défenses. La foi éteint, arrête, met fin à tous les doutes, les murmures et même les suggestions mauvaises des méchants. La foi persévérante dans la parole et les promesses de Dieu, elle est indispensable. Par-dessus tout, dira Paul. Si le croyant veut être protégé des tentations de toutes sortes, il faut qu'il apprenne à utiliser ce bouclier. En réalité, on pêche lorsqu'on se laisse piéger par les mensonges de Satan et les plaisirs qu'il promet, au lieu de faire le bon choix, celui de l'obéissance à Dieu et des bénédictions qui en résultent, qui en découlent. Par-dessus tout, ce que nous devons revêtir dans notre vie spirituelle, c'est la foi. Le juste vivra par la foi, dit la parole de Dieu. Sans elle, la vérité, la justice, le zèle ne nous serviraient de rien. Par la foi, nous nous réclamons et nous recevons les promesses divines. Et nous nous refugions en Christ et nous nous emparons de sa puissance. Marc 9, 23 dira « Tout est possible à celui qui croit ». Il est question ici de cette foi par laquelle on se repose fermement sur Dieu et sur sa parole pour être délivré des tentations. 2 Pierre chapitre 2, verset 9. 2 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. » Et en Romains chapitre 16, le verset 20, Romains 16, 20, il nous est dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Quel encouragement pour nous, frères et sœurs, de demeurer dans cette foi pour finalement remporter la victoire en Christ, par Christ, et rentrer nous dans la victoire que Christ a accomplie pour nous. La foi peut éteindre tous les traits enflammés du malin. 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» En effet, par la foi, nous faisons notre la victoire remportée au calvaire. C'est par elle, enfin, que nous comptons sur la présence constante du Saint-Esprit, permettant à Dieu d'accomplir la parole que Jean annoncera en 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, donc l'Esprit de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, Satan. Frères et sœurs, quel meilleur souhait pour nous tous, quelle meilleure prière, quel plus grand désir doit animer notre cœur de dire « Seigneur, augmente notre foi ». Il est question d'apprendre par cette foi à en faire bon usage et cette foi nous permet, puisqu'elle est active, vivante, elle nous permet de nous défendre des traits enflammés. Combien il est important pour nous de savoir en faire bon usage. La fin du verset fait allusion à la cruelle méthode d'envelopper les flèches avec du tissu qu'on en imprégnait d'une matière inflammable auquel on mettait le feu avant de les lancer. On imagine bien, on a déjà vu ça peut-être dans des films, mais les dégâts que ça pouvait produire et la manière où le feu pouvait ravager en réalité tout ce qui avait été mis en place pour se protéger. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes, dans le psaume 18, verset 31, psaume 18, 31, « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Amen. En réalité, cette parole de Dieu, elle est là pour nous permettre de faire face aux flèches enflammées que l'ennemi peut envoyer. Mais du moment que nous on se place sous la protection de la parole de Dieu, ces traits n'auront pas d'effet dans notre vie, n'auront pas d'action destructrice sur nous-mêmes, sur notre foyer, sur notre famille, sur nos enfants. Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6. Proverbe 30, 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Il ne faut rien rajouter à ce que Dieu nous a donné, il est parfait. C'est un bouclier qui est étudié d'une manière parfaite pour couvrir notre vie spirituelle, pour couvrir notre vie personnelle. Mais encore, il faut apprendre à manier ce bouclier, à l'utiliser, à savoir se réfugier, à savoir l'utiliser, et de faire de ce bouclier pour nous quelque chose, un élément important, puisque c'est question de notre foi. Et il est question d'une foi basée sur la vérité. Ainsi, notre cœur doit aussi être une expression de la vérité. Matthieu chapitre 5, verset 37, dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il faut que notre parole soit attaché à ce que nous croyons, à notre foi. Faisons attention à croire d'une manière et agir d'une autre. Avoir une attitude en parole et une action après réelle qui est en contradiction avec nos paroles. Les tentations sont assimilées à des flèches enflammées, décochées par l'ennemi, qui s'éteignent lorsqu'elles se plantent dans le bouclier de cuir traité à l'huile pour résister au feu. Il est question pour nous de traiter notre vie, d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour, en réalité, faire que quand la flèche elle est décochée, elle arrive contre le bouclier, elle ne puisse pas nous atteindre. Mais qu'en réalité, cette flèche, elle s'éteigne, elle s'arrête, ne va pas plus loin. Si ce bouclier, il est là pour nous protéger, cette foi, il est question pour nous aussi d'apprendre à pouvoir l'utiliser pour protéger ceux qui sont autour de nous, à nos côtés, dans le combat, dans les difficultés. Mais ce bouclier qui était fait en peau d'animal, demandait un soin, demandait un entretien, sans lequel ce bouclier perdait sa fonction, sa fonctionnalité. C'est dangereux de manquer d'huile sur le bouclier. Un texte qui nous enseigne dans ce sens-là, c'est le texte de 2 Samuel, chapitre 1, verset 21. 2 Samuel, chapitre 1, verset 21. Montagne de Guibois, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de le oindre. Comme le cuir du bouclier devait être continuellement nourri avec de l'huile, il en est de même pour nous. Le chrétien a besoin vital d'être nourri et imprégné de l'onction de Dieu. Et Saül, malheureusement, avait laissé sa vie spirituelle se dessécher. Sa relation avec Dieu avait tari à cause de son attitude rebelle et orgueilleuse. Et il est arrivé un moment où son bouclier n'était plus dans les conditions optimales pour le protéger. Et la parole de Dieu que nous venons de lire en 2 Samuel chapitre 1 verset 21 nous dit « Le bouclier de Saül, l'huile, a cessé de l'oindre. » Il est question des boucliers qui ont été jetés. Ceux qui avaient été des héros de la foi, en laissant leur bouclier se dessécher, ont malheureusement échoué dans leur marche et dans leur vie spirituelle avec Dieu. La sécheresse est une des conséquences de la rébellion, attirant ainsi le jugement de Dieu. On va faire une lecture de plusieurs textes qui, en effet, confirment cette pensée et qui nous amènent à cette responsabilité qui est la nôtre d'entretenir notre foi en demandant à Dieu de nous oindre jour après jour. Première lecture, 1 Rois chapitre 17 verset 1. 1 Rois chapitre 17 verset 1. Élie, Le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab : L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Cette parole, ce jugement, avait été donné à cause de la rébellion de Akab. Et pendant des années, la pluie n'est pas tombée. Jérémie, chapitre 14, verset 4. Jérémie 14, 4 nous dit « La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs, confus, se couvrent la tête. » Du moment que les terres étaient desséchées, abandonnées, par l'assistance de Dieu, par le secours de Dieu, par cette bénédiction qui est la pluie, ben forcément, le but était de conduire les hommes à confesser leurs erreurs, confesser leurs fautes, revenir à Dieu. Joël chapitre 1, verset 19, Joël 1, 19 nous dit « C'est vers toi que je crie au Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. » Une des conséquences du manque de pluie, c'est cette sécheresse qui fait qu'à un certain moment, la végétation peut prendre feu de manière spontanée à cause de la chaleur. Et une fois que le feu démarre, dans un endroit où tout est sec, ben, c'est pas évident d'éteindre le feu. On peut essayer de faire de notre mieux, mais malheureusement, tous les éléments sont là pour que ce feu consomme tout. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4, verset 7, Amos, chapitre 4, verset 7, nous lisons « Et moi, je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre, qui ne l'a pas reçu, s'est desséché. » Alors, pour nous, encore une fois, aujourd'hui, quel type de terrain voulons-nous être ? Un terrain arrosé, un terrain qui reçoit de la part de Dieu cette pluie qui vient arroser, qui permet en réalité à notre vie de s'épanouir, de grandir, de produire du fruit. Notre rébellion contre Dieu, notre désir de vivre de manière inconsidérée, produit en nous cette sécheresse qui, tôt ou tard, va nous amener à tout perdre, tout est consommé. Tout est brûlé, tout est perdu. Le prophète Agé, chapitre 1, verset 11. Agé, chapitre 1, verset 11, il dira « J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé et sur le moût, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et surtout le travail des mains. » Appeler à la sécheresse, c'était demander le jugement de Dieu sur un pays, sur une nation, qui s'était montrée rebelle à Dieu, qui s'était écartée de l'engagement qu'ils avaient pris avec Dieu, qui s'était éloignée de leur Dieu pour donner et servir des idoles, pour se donner à la joie, au plaisir, au péché, en oubliant ce que Dieu avait fait pour eux, en les sortant de 400 ans d'esclavage. Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques 5, 17 nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Si la foi est un instrument qui nous permet d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi, cette même foi nous permet aussi de crier à Dieu dans des moments bien particuliers. Élie n'a pas demander la sécheresse pour le plaisir de demander la sécheresse. Non, la situation spirituelle, morale du pays était telle qu'il fallait que Dieu, à nouveau, amène les cœurs à se saisir, se ressaisir et analyser. C'est comme si à un moment Dieu avait mis un gros coup de frein au pays tout entier, en leur disant maintenant, réfléchissez. Maintenant, prenez le temps d'analyser. On pourrait imaginer bien qu'à chaque fois que le monde, l'humanité a connu des gros coups de frein, ça soit été toujours un message de la part de Dieu pour rappeler les hommes, pour rappeler l'humanité à revenir à ses pieds, à venir tout à nouveau chercher de l'huile auprès de Dieu pour retrouver ses tensions, pour retrouver à nouveau cette vie imprégnée de Christ, pour finalement pouvoir résister à l'ennemi, résister aux tentations, résister au péché. J'aimerais traiter avec vous les bienfaits de l'huile dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ. Les bienfaits de l'huile dans la vie du disciple de Christ. L'huile était utilisée pour oindre, donc pour consacrer, et on versait de l'huile sur la tête de celui qui était consacré à Dieu, à servir Dieu. Appliquer de l'huile sainte était aussi un geste de bénédiction. On va voir ensemble plusieurs raisons qui doivent nous amener à chercher cette huile spirituelle auprès de Dieu. Première chose, l'huile est symbole du Saint-Esprit. Elle nous parle de la puissance de l'Esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27, nous lisons pour vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. C'est vital dans notre vie, nous ne pouvons pas nous en passer, nous n'avons pas à considérer le Saint-Esprit comme une option de la vie du chrétien, comme quelque chose qu'on peut rajouter, presque comme une déco, mais c'est quelque chose d'essentiel. Il est question aussi de considérer l'huile aromatique. Il en est question dans la parole de Dieu. Elle est le type des grâces précieuses qui se trouvent dans la personne de Christ. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 16 à 18. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 16 à 18, nous dit ceci. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Quelle promesse merveilleuse, quelle grâce incroyable de savoir que nous n'avons pas été abandonnés à nous-mêmes, mais que Christ, il est venu donner sa vie, et Dieu le Père a prévu, a préparé et a établi qu'au moment où Jésus revenait reprendre sa place à sa droite dans la gloire, le Saint-Esprit venait dans le cœur de ceux et celles qui ont donné leur vie à Christ, qui ont donné leur vie pour Christ, pour les instruire, les conduire, les fortifier. Il est question dans la parole de Dieu de l'huile dans des vases, les vases des vierges prudentes. Cela nous parle de la puissance de l'espérance. Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 5. Matthieu 25, 1 à 5. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes, s'assoupirent et s'endormirent. La suite de ce texte de Matthieu nous parle du moment où on entend un cri qui annonce la venue de l'époux. Et ces vierges sages avaient en réalité de l'huile en réserve pour pouvoir tout à nouveau ranimer leurs lampes et rentrer pour fêter ces noces. Mais les vierges folles, malgré qu'elles avaient revêtu les habits, malgré qu'elles avaient elles aussi une lampe, elles avaient oublié, elles avaient négligé de garder leur espérance, leur vie, leurs ailes, vivant, brûlant, comme une lampe, leur témoignage. Et malheureusement, une fois que leur lampe était arrivée au bout de leur réserve, elle s'est éteinte. Malgré les efforts faits pour aller chercher de l'huile, malgré le fait d'avoir trouvé de l'huile, la porte du lieu où les noces étaient célébrées fut fermée. Et le texte nous dit qu'elles ne purent pas rentrer. Quel enseignement ! La parole de Dieu nous parle encore de l'huile d'olive, figure de l'action du Saint-Esprit dans nos âmes. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Jean chapitre 14, versets 12 à 14 nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse pour nous ! L'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, l'action de Jésus-Christ pour nous auprès du Père. Deutéronome chapitre 7, verset 13 dira ceci. Il t'aimera. Il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût et ton huile. Les portes de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. L'huile de la bénédiction, la présence de Dieu dans notre vie, la présence et la bénédiction de Dieu pour nous, alors que nous nous plaçons entre les mains de Dieu. Il t'aimera, Dieu t'aimera. C'est ce que Deutéronome 7, 13 nous dit. Il t'aimera, il te bénira. Mais soyons clairs, la condition est celle de marcher avec Dieu, de vivre constamment dans la présence de Dieu, de chercher et d'entretenir ces tensions de Dieu dans notre vie. J'aimerais lire encore avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 19 à 21. Jean 14, versets 19 à 21. Et il nous est dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous. Vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Seulement lui, Jésus-Christ, peut parfaitement agir dans notre vie, dans notre cœur, au point de nous faire connaître l'amour de Dieu, nous faire connaître Dieu, se faire connaître à nous, nous révéler qui il est, le Fils de Dieu. Mais il est question pour nous aussi de saisir sa parole, de garder ses commandements, et aussi nous de l'aimer, un amour véritable, profond, sincère, pour que Christ habite nos cœurs et pour que plus on avance avec lui, plus on apprend à le connaître et à l'aimer. Encore un autre exemple concernant l'huile. L'huile d'olive pure, broyée, elle représente la grâce du Saint-Esprit basée sur l'œuvre de Christ et à l'image du chandelier qui était d'or battu. En Exode chapitre 27, verset 20, Exode 27, 20, il dit « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure, d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » Il était question d'offrir une huile pure, faite d'olives concassées. Et le but, c'était d'entretenir cette flamme, cette lumière, par cette offrande personnelle, cette consécration personnelle. Spirituellement, nous sommes amenés encore aujourd'hui à entretenir cette lampe du témoignage par notre consécration à Dieu, par le fait de laisser Dieu travailler nos cœurs, briser ce qui ne va pas. Oui, briser notre partie charnelle, briser tout ce qui ne va pas dans notre vie, pour finalement faire découler quelque chose de bon, quelque chose qui va être à sa gloire, puisque plus nous on disparaît, plus Christ est vivant dans notre vie. L'apôtre Paul dira qu'il voulait diminuer pour que Christ prenne de la place dans sa vie. Ésaïe chapitre 50, verset 6, il nous exprime ce que Christ a décidé de vivre lui-même pour donner exemple à notre vie. Ésaïe chapitre 50, verset 6 dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Jésus a accepté de laisser sa vie, son corps être broyé pour nous. Preuve d'amour. Cet amour qui renonce à lui-même. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53, 5, il nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » J'aimerais relire ce texte. Si vous le voulez bien, relisons ensemble. Ésaïe 53, 5. « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Zacharie chapitre 13, verset 6. Zacharie 13, 6. Et dit, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçues. Waouh, quelle parole! Les mains du Seigneur qui ont été percées à cause de nos péchés. Lui qui a porté la croix, lui qui a vécu la croix, mais lui aussi qui a été ressuscité et qui a fait de la croix, qui était un symbole de malédiction, un symbole de salut pour nous. À la croix, il nous invite, à la croix, il nous attend, non pas pour rester à la croix, mais pour renaître en Christ, pour devenir une nouvelle créature, pour savoir finalement être nous aussi imprégnés de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa vérité. Il est question pour nous, frères et sœurs, de grandir, de continuer à permettre à notre cœur, notre vie, d'être à l'image de Jésus-Christ. Encore quelques exemples concernant l'huile. Une huile pure est, comme toujours dans la parole, une figure du Saint-Esprit. Nous l'avons déjà évoqué, mais regardons encore un autre texte dans le livre de l'Exode au chapitre 27, à partir du verset 20. Exode 27, à partir du verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour les descendants et que devront observer les enfants d'Israël. La volonté de Dieu, c'est que cette huile permette que le témoignage soit présent même dans les moments les plus sombres. Du soir au matin, les heures de la nuit où on pourrait se dire « mais tout le monde dort, pour quelle raison garder des lampes allumées n'est-il pas peut-être une consommation inutile ?» Mais non. Frères et sœurs, dans les moments même les plus sombres que nous pouvons traverser, que notre pays traverse, tel que nous les connaissons aujourd'hui, nous sommes appelés à être ces lampes qui brûlent en présence de l'Éternel, pour que perpétuellement les hommes et les femmes puissent se tourner vers celui qui est la lumière, Jésus-Christ. Encore un autre exemple de l'huile. L'huile sainte, symbole aussi de la manière dont le croyant, le récipient, se doit d'être. Romains chapitre 8, verset 9, Romains chapitre 8, verset 9, nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, point. » Si quelqu'un, et on entend bien ce qu'il dit ce texte, n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est le sceau de Dieu. L'Esprit Saint, c'est le sceau de Dieu dans la vie de celui qui s'est donné. Le manque de ce sceau, le manque de la présence du Saint-Esprit dans la vie de la personne, fait qu'en réalité, mais peut-être il vit un rêve, une illusion, voire même un mirage, mais ce ne sera pas la réalité. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit, 1 Corinthiens 3, 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? La présence du Saint-Esprit, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, n'est pas une option, c'est une nécessité, c'est vital. C'est pour nous, véritablement, la confirmation de la présence de Dieu dans notre vie. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, 1 Corinthiens 6, 19, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Du moment que le Saint-Esprit est en nous, c'est la preuve tangible que Christ a pris place dans notre cœur, mais qui en a pris aussi la direction. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Encore un exemple concernant l'huile. L'huile versée sur les plaies est une figure du Saint-Esprit que le croyant reçoit à sa conversion. Luc chapitre 10, verset 34. Il dit, il s'approcha et bonda ses plaies. On y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Comprenons bien. Le Saint-Esprit est celui en réalité qui agit dans le cœur de l'homme pour l'amener à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en réalité ranimer en nous le désir de retrouver ce lien avec le Créateur. Du moment que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient habiter dans notre cœur. Après, il est à nous de chercher de tout notre cœur, avec notre prière instantanée, de chercher auprès de Dieu le baptême du Saint-Esprit, baptême du feu de l'Esprit. Et dans la parole de Dieu nous parle dès les premiers chapitres du livre des Actes, où le peuple entendit parler dans d'autres langues. Mais c'est encore un autre sujet, les dons spirituels. Mais ils font partie intégrante de cette manière d'entretenir l'onction dans notre vie. C'est pour cela, frères et sœurs, nous n'arrêtons pas notre vie au jour de notre conversion, mais je dirais que c'est, comme pour le coureur, le starting block, le démarrage. Mais après, il y a une course encore à mener, il y a des règles à respecter pour ne pas être disqualifié, et il est question d'arriver jusqu'au bout. Il est souvent rendu dans le Nouveau Testament, il est question de Paraclète, le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui encourage, celui qui supplie même, celui qui intercède auprès du Père. Frères et sœurs, nous avons besoin constamment de cette œuvre de consolation qui a des effets et des aspects très variés. Non seulement en ce monde qui est incapable de consoler, nous avons besoin du Consolateur. Le monde, il n'est pas capable. Face à bien des épreuves, le monde se montre incapable de consoler qui que ce soit. Nous avons besoin et nous pouvons chercher la consolation auprès de Dieu. Le croyant dans l'épreuve a besoin du Dieu consolateur. Mais encore, le peuple d'Israël, quand sa destinée a été tragique, elle a eu besoin d'être atteinte par le message divin de celui qui est le consolateur. Le Messie a été attendu comme le consolateur. Il était appelé la consolation d'Israël. Jésus viendra accomplir cette promesse de Dieu, viendra agir pour apporter cette consolation. Dieu le Père console, nous dit 2 Corinthiens 7,6. Christ aussi console, 2 Timothée 2,16 et la suite. Et le Saint-Esprit est envoyé pour faire cette œuvre de consolation. Il est le Consolateur, Jean chapitre 14, verset 26. J'aimerais terminer ce temps d'étude d'aujourd'hui par un passage qui nous montre que nous avons, nous aussi, frères et sœurs, non seulement à vivre et à réaliser la consolation dans notre cœur, mais devenir nous-mêmes des instruments, des moyens, des outils entre les mains de Dieu pour consoler. J'aimerais terminer par une lecture en 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Amen. Je voudrais vous inviter, avant de nous quitter, à prendre quelques instants dans la prière et demander encore au Seigneur aujourd'hui: Seigneur, viens remplir ma vie de ton huile sainte. Seigneur, viens encore par le Saint-Esprit oindre ma vie pour que, Seigneur, je sois protégé par toi, pour que je sois, Seigneur, imprégné de ta présence, pour que le bouclier qui est ma foi, Seigneur, soit toujours prêt et apte à accomplir ce pour lequel tu me l'as donné, Seigneur. Que cette foi ne soit pas quelque chose qui demeure dans un coin, mais que cette foi soit là aussi pour me protéger des attaques de l'ennemi et qui puisse être un instrument pour moi pour le renvoyer en arrière, pour le repousser, pour ne pas laisser ses traits enflammés, ses pensées, ses actions m'atteindre, atteindre ceux qui sont autour de moi, atteindre mon foyer. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit agisse, œuvre dans les cœurs. Seigneur, nous te prions pour un temps, Seigneur, de visitation aussi. Seigneur, pour notre nation. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'un réveil dans notre pays. Nous avons besoin d'une action du Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses réveiller les consciences. Que tu puisses, Seigneur, tout à nouveau, Seigneur, toucher les cœurs, les amener à réfléchir à leur relation avec toi. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions nous-mêmes être des témoins efficaces par le Saint-Esprit, mais en même temps être aussi des outils entre tes mains pour la consolation dans notre pays, qui plus que jamais a besoin, Seigneur, de toi, a besoin de ton secours. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons et nous t'exaltons au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs, je vous donne rendez-vous dimanche pour encore ce partage de la parole de Dieu. Et je vous rappelle que pour l'étude biblique, la suite, c'est vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous fortifie. N'hésitez pas à réécouter le message, il est à votre disposition autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le télécharger en MP3, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez à nouveau reprendre cette étude et vous imprégner de ce que la parole de Dieu nous donne. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. À bientôt.